financier. Ça veut dire que c'est un cordonnier. Très rapidement, qu'est-ce qui se passe dans cette fable? On a deux personnages financiers qui, lui, a plein d'argent. Il a tellement peur qu'on lui pique, qu'il n'arrive pas à dormir, qu'il ne trouve pas le sommeil. Et à côté, on a ce savetier, ce cordonnier, qui lui, il est un peu pauvre. En fait, il vit au jour le jour. Il ne gagne que ce dont il a besoin pour survivre. Et pourtant, il est heureux. Il a une joie sans norme. Il chante du matin jusqu'au soir. Tellement fort qu'il réveille même ce financier qui n'arrive pas à dormir. Et donc ce financier en a marre et il se dit, comment je vais faire? Et donc il va proposer de donner une somme d'argent de 100 écus, qui est une somme énorme à l'époque, à ce cordonnier. Ce cordonnier, il se dit, j'ai jamais eu autant d'argent, donc il accepte. Et ce qui était censé lui produire plein de bonheur, qu'il ait plein d'argent, lui qui vit toujours râler pâquerette, au jour le jour, en fait son argent, au lieu de le rendre heureux, ça le rend malheureux. Il commence à le cacher. Il commence à avoir peur qu'on lui pique et il perd sa joie, il perd son bonheur, il arrête de chanter. Et là-bas, la fable finit comme ça, le savetier rend l'argent au financier en lui disant « Rendez-moi mes chansons et mon somme, donc le sommeil, et reprenez votre argent, reprenez vos 100 écus. » Alors, on va pas faire une étude approfondie de cette fable, hein. Je rappelle que Jean de La Fontaine était là aussi pour critiquer la bourgeoisie, la noblesse, la richesse de l'époque. Mais ça nous fait encore réagir aujourd'hui, sa morale de cette fable. Est-ce que l'argent fait vraiment le bonheur? On va pas faire une dissertation de philosophie ce matin, mais quand même qu'on y réfléchisse un peu. Parce que si on devait choisir l'un ou l'autre des personnages, lequel on choisirait? Ce riche, triste, ou ce pauvre, entre guillemets, pourtant bien heureux? Pourquoi je commence par cette fable? Parce que ce matin, on va être dans Luc 12, et l'un des deux textes qu'on va étudier, qu'on va lire ensemble, va nous parler de la question de l'argent. Est-ce que l'argent suffit? Et on va être confronté à des questions cruciales ce matin. Notre rapport à l'argent, notre rapport à nos inquiétudes, on va parler des craintes ce matin. Et surtout la question de l'éternité, où tout cela nous mène. Pour rappel, alors ce message du coup c'est la troisième partie après le message de Pierre il y a 3 semaines et le message de Philippe la semaine dernière sur l'identité du disciple. Ça fait plusieurs semaines qu'on est entré dans cette deuxième partie de l'évangile de Luc. Rappel, verset 51 du chapitre 9, Jésus part vers Jérusalem. Et depuis là on va avoir moins de miracles mais beaucoup plus d'enseignements qui ont pour but de former des disciples, à être des disciples qui suivent leur maître. 3 semaines qu'on voit ça, et c'est ce qu'on va voir également encore ce matin. Alors, c'est peut-être écrit un peu petit. Ne prenez pas de photos tout de suite, il y aura à la fin le même tableau avec ce qu'on va voir juste ce matin. Mais voilà ce qu'on voit depuis plusieurs semaines. Comment réaliser ma mission? Comment gérer le rejet? Comment bien prier? Etc. Etc. Et aujourd'hui, on va prendre seulement 2 passage parmi ce chapitre 12, on va pas avoir le temps de tout voir, je m'en excuse. Soyez libre de lire le reste du texte chez vous en rentrant. On va voir 2 choses, et les 2 textes de ce matin, ils vont avoir une morale et une portée très simple à comprendre. Suive Jésus dans nos finances et au cœur de nos inquiétudes. Très simple à comprendre, très facile à dire, et très difficile à vivre. Et c'est ce qu'on va essayer de voir ce matin. Je vous invite à prier avant qu'on prenne ensemble ce passage. Ouais, Père, merci parce que tu es en route jusqu'à Jérusalem pour nous préparer une place, pour mourir à notre place. Merci parce que tu ne nous as pas laissés sans rien, mais tu nous as laissé des enseignements pour que l'on vive de la manière qui te soit agréable, pour vivre une vie qui te ressemble, conditionnée par toi. On va voir ce matin que te suivre, c'est pas facile. Renoncer à soi-même, c'est difficile. Et c'est pour ça qu'on demande ton aide pour ce matin et pour le vivre dans le restant de nos jours. Amen. Donc je vous invite à prendre Luc chapitre 12 et on va voir dans une première partie que ce que ce texte nous invite à faire, c'est suivre Jésus dans nos finances. On va lire à partir du verset 13 jusqu'au verset 21. Luc chapitre 12 à partir du verset 13 ou 15, je veux dire à partir du verset 13. Du milieu de la foule, quelqu'un dit à Jésus, « Maître, dis à mon frère de partager notre héritage avec moi. » Jésus lui répondit, « Qui m'a établi pour être juge ou pour faire vos partages ?» Puis il leur dit, là on arrive dans l'histoire. Gardez-vous avec soin de toute soif de posséder, car la vie d'un homme ne dépend pas de ses biens, même s'il est dans l'abondance. Et il leur dit cette parabole. Les terres d'un homme riche avaient beaucoup rapporté. Il raisonnait en lui-même en disant, que vais-je faire? En effet, je n'ai pas assez de place pour rentrer ma récolte. Voici ce que je vais faire, dit-il. J'abattrai mes greniers, j'en construirai de plus grands. J'y amasserai toute ma récolte et tous mes biens. Et je dirai à mon âme, tu as beaucoup de biens en réserve pour de nombreuses années. Repose-toi, mange, bois et réjouis-toi. Mais Dieu lui dit, homme dépourvu de bon sens, cette nuit même ton âme te sera redemandée. Et ce que tu as préparé, pour qui sera-t-il? Voilà quelle est la situation de celui qui amasse des trésors pour lui-même et qui n'est pas riche pour Dieu. Alors, qu'est-ce que nous raconte cette histoire? Elle nous raconte l'histoire d'un jeune homme riche, d'un homme riche. Un peu comme le financier de la fable de La Fontaine. Et comme cette personne de la fable, lui aussi, il a un problème. Son problème, c'est pas qu'il est triste, qu'il n'arrive plus à dormir. Son problème, c'est qu'il a trop d'argent. Son problème, à lui, c'est qu'il a tellement gagné, que ses terres lui ont tellement rapporté, qu'il n'a plus de place pour tout stocker. Ça, c'est un gros problème, n'est-ce pas? Ce qu'on appelle un problème de riche, à notre époque. Tellement riche qu'il ne sait pas quoi faire. Quel problème crucial, évidemment. Mais voici ce qu'il va faire face à ce problème. Il va pas rester là à se demander quoi faire, à ne rien faire. Ce qu'il va faire, on voit à partir du verset 17, il va dire, que ferai-je? Voici ce que je vais faire. Je vais abattre des greniers, je vais en construire de plus grands. Ce qu'il va faire, c'est très simple, il va faire fructifier son argent. Il va le placer intelligemment, plutôt que de le dépenser dans des plaisirs éphémères. Oh, j'ai trop d'argent, bah allez, une petite vacance, un petit moment au bord de la plage, au bord de la mer. Non, ce qu'il va faire, il va le faire fructifier. C'est comme si aujourd'hui, on avait Jean-Édouard, cadre informatique d'une grande entreprise du numérique, qui se dit, j'ai trop d'argent de côté, qu'est-ce que je vais faire? Il va prendre son argent, il va l'investir en bourse, dans des crypto-monnaies. Il va se dire, qu'est-ce que je peux faire pour devenir encore plus riche? Il va voir que l'immobilier à Lyon va prendre la valeur, et il se dit, je vais acheter un logement dans plein Lyon. Je vais le faire louer, et je vais avoir une nouvelle rentrée d'argent avec cette location. Petit à petit, l'argent de la location que je vais recevoir tous les mois, ça va rembourser l'argent que j'aurais dépensé pour acheter ce logement. Et au bout de quelques années, j'aurai tout remboursé. Vous savez, j'aurai même de l'argent supplémentaire. Et je vais pouvoir recommencer, pouvoir prendre un deuxième logement, puis faire ça jusqu'à ce que je puisse en faire un troisième et un quatrième. Et au bout d'un moment, j'aurai tellement d'argent seulement avec la rente de mes logements, de mes locations, que j'aurai même plus besoin de travailler. Ça, c'est le portrait de cet homme riche. Quelqu'un qui a trop d'argent, qui ne sait pas en quoi en faire, et qui va l'investir pour gagner encore plus d'argent. Alors vous allez me dire, mais c'est quoi le problème? Il fait rien de mal. Tout ce qu'on comprend de ce texte, c'est pas quelque chose de malhonnête, il le fait honnêtement. C'est quelqu'un qui a travaillé à la sueur de son front pour que ses terres rapportent, et qui va justement profiter pour investir et encore gagner plus d'argent. Et pour finir comment? Verset 19, en disant, mon âme, tu as beaucoup de biens en réserve pour plusieurs années. Repose-toi, mange, bois, réjouis-toi. Imaginez ça, c'est le verset qu'on aimerait tous vivre un jour. Un jour où on a tellement bien travaillé, qu'on a tellement d'argent, qu'on peut se permettre de faire quoi? Simplement se reposer, manger, boire et se réjouir. Parce que si on est honnête, c'est pas le rêve qu'on espère tous. Vivre. Plus besoin de travailler. Oh. Plus besoin de se lever à 5h30 du matin pour aller dans Lyon et éviter les embouteillages du périph. Plus besoin d'être au volant de sa voiture et de réagir de manière colérique face à l'automobiliste de devant qui nous prend notre place. Plus besoin de participer à des longues réunions au boulot. Plus besoin de prendre les transports en commun le matin. Dans une vie, on a juste à se reposer, à manger, à boire et à se réjouir. Est-ce que c'est pas ça le rêve? Est-ce que c'est pas ça qu'on aspire tous? Imaginez une bonne retraite au bord de la plage ou à la campagne avec l'être que l'on aime, simplement à profiter de ces instants. Est-ce que c'est pas ça qu'on rêve tous? Si on est honnête, c'est ça qu'on espère, à quoi on aspire. Et pourtant, quel est le verdict de Dieu par rapport à ce rêve-là, par rapport à cette situation? Quel est son verdict? Un mot. Insensé. Dans ma version, c'était « homme dépourvu de sens ». Insensé. On se demande pourquoi Dieu lui parle comme ça. Qu'a fait cet homme? Il n'a rien fait de mal. Il a juste gagné de l'argent honnêtement. Il l'a fait fructifier pour en profiter ensuite. Quel est le mal à ça? Son mal, c'est ce que nous dit son problème à cet homme au verset 20, c'est ce qu'on voit à la suite, c'est que « sais-tu même, ton âme te sera demandée. » Cette nuit même, ton âme te sera demandée. Son problème à cet homme-là, c'est qu'il meurt ce soir, il meurt cette nuit. Il a beau avoir tout bien préparé dans sa vie, tout fait en sorte de profiter d'un repos bien mérité, de profiter de sa retraite, de son repos, de son bonheur. Il y a une chose qu'il n'a pas préparée, c'est sa mort. Et oui, on a tendance à se dire que oui, c'est bien de pouvoir profiter de cette retraite, de tout ça. On se dit, j'ai encore 20 ans à vivre, alors je profite pour le moment. J'aurai le temps après, et c'est au moment où ma santé commencera à se dégrader que là, je commencerai à me focaliser sur l'essentiel. En fait, cette histoire, c'est bien plus que ça. C'est bien plus que l'histoire d'un homme riche qui a fait fructifier son argent. Regardons en détail la vie de cet homme, si on prend un peu plus de temps. Il y a un mot qui revient le plus souvent dans cette histoire, c'est le mot « je ». Regardez avec moi. Il raisonnait en lui-même. Que ferais-je? Car je n'ai pas de place pour serrer ma récolte. J'abattrai mes greniers. J'y amasserai toute ma récolte et tous mes biens. Je dirai à mon âme, tu as beaucoup de biens pour plusieurs années. Repose-toi et réjouis-toi. C'est mon argent, c'est mes récoltes. C'est moi. C'est moi. Et c'est là où j'ai compris où Jésus voulait en venir avec cette histoire. Pourquoi cet homme était un insensé aux yeux de Dieu? Parce que cette histoire, c'est bien plus que l'histoire d'un riche qui profite de son argent. On est loin de l'histoire de ce financier dans la fable de La Fontaine. Lui était triste, alors que lui est très heureux. Non, cette histoire, c'est celle d'une personne, certes riche, mais qui vit toute sa vie dans l'indépendance de Dieu. Peut-être que cet homme est croyant, on ne sait pas. Peut-être que, comme vous, cette personne vient à l'église tous les dimanches matins. Peut-être que même lui, il lit sa Bible de temps en temps, il croit en Dieu, et il le prie. Mais pourtant, sa vie, ses décisions, ses choix, tout ça, il ne les prend qu'avec lui-même. Dieu n'entre même pas dans l'équation. Et ça, le fait d'être au contrôle de sa propre vie, c'est ce que la Bible appelle le péché. C'est le fait de faire de soi-même son propre Dieu, de vivre par nous-mêmes. Et la Bible nous dit que la seule chose qu'on mérite, c'est qu'on soit à ses yeux des insensés. Et on mérite même que notre vie nous soit demandée. On mérite la mort. C'est ça que nous dit la Bible à ceux qui, comme lui, certes vivent une vie honnête, pas de mal, mais qui pourtant vivent en indépendance de Dieu. Et ce texte nous rappelle que face à la mort, tout ce qu'on a amassé il ne sert à rien. Fin du verset 21, est-ce que tu as préparé? Pour qui cela sera-t-il? Tu vis certes la vie dont tu as rêvé, et tu obtiens la mort que jamais tu n'aurais souhaité. Et la seule chose qui finalement nous reste lorsque la fin arrive, c'est une éternité loin de Dieu, loin de ce Dieu qui était loin de nos vies. Ça, c'est ce que la Bible appelle l'enfer. Et certes, si on aspire à la même vie que lui, j'espère qu'on n'aspire pas à la même mort, à la même fin. Verset 21, ce texte nous dit « Il en est ainsi celui qui n'est pas riche pour Dieu. » Alors que faire? Comment gérer nos possessions, comment gérer notre argent, comment gérer notre matérialisme. Cette phrase, en fait, elle nous donne la réponse. Il est ainsi celui qui n'est pas riche pour Dieu. La réponse, c'est ça. Il faut être riche pour Dieu. Alors, qu'est-ce que ça signifie, être riche pour Dieu? Est-ce que ça veut dire être pauvre au sens humain? Est-ce que ça veut dire de tout vendre, de faire vœu de pauvreté, de devenir moine dans un monastère et de ne plus rien posséder? Est-ce que c'est ça, être riche pour Dieu? Pas vraiment. Vivre pour Dieu, c'est quelque chose qui est possible avec beaucoup d'argent, ou même avec peu d'argent. Être riche pour Dieu, c'est vivre une vie qui dépend de lui. C'est vivre une vie qui regrette ces moments, justement, où on a été des insensés. Notre vie a été dépourvue de sens. C'est-à-dire quand nos choix, nos décisions, nos priorités ont été pour nous-mêmes et prises par nous-mêmes. Et avoir une vie riche pour Dieu, c'est vivre une vie qui est conditionnée par la souveraineté de Dieu, par le plaisir qu'on a de le laisser gérer nos vies. C'est une vie qui ne va pas dire avec cet argent, qu'est-ce que je peux faire pour en gagner plus? Mais plutôt une vie qui dit, Père, montre-moi comment gérer mes biens, mon argent, mes possessions, pour ton royaume, pour ta gloire. C'est ça une vie riche pour Dieu. C'est comme on l'a vu ces deux dernières semaines déjà avec Pierre et Philippe, c'est renoncer à soi-même et vivre pour ce Dieu qui nous aime tellement qu'il ne veut pas qu'on soit démunis face à cette mort si terrible. Parce que si on cherche tous à éviter la mort, lui, justement, c'est ce qu'il est en train de faire, de marcher vers Jérusalem, vers cette mort. Il est venu sur cette terre en la personne de Jésus, vivre la vie que nous aurions dû vivre, c'est-à-dire une vie en dépendance totale et complète à Dieu. Il est venu prendre la mort que nous aurions dû recevoir, la prendre et la vaincre une fois pour toutes à la croix. Et c'est ça la bonne nouvelle de l'Évangile, la bonne nouvelle de ce disciple-là, qui vit une vie riche pour Dieu. Alors certes, on n'aura peut-être pas le même rêve que lui, on n'aura peut-être pas la même retraite, le même bonheur, peut-être la même réjouissance que cet homme riche, mais on sait qu'on aura une éternité dans sa présence. Et est-ce que ça ne vaut pas beaucoup mieux? Qu'on puisse réfléchir à ça. Comment gérer notre argent? Comment gérer le matérialisme en étant riche pour Dieu? C'est-à-dire en utilisant nos richesses, nos biens que Dieu nous a déjà donnés, c'est lui qui nous permet d'avoir tout ça d'ailleurs, en les utilisant dans la totale dépendance et la soumission à Dieu, plutôt que pour nous-mêmes. Soyons riches pour Dieu. On va voir maintenant un deuxième texte, à partir du verset 22 jusqu'au verset 34, qui cette fois va de pair avec un peu ce qu'on a vu dans la présidence. Je ne sais pas si tu avais fait exprès, Guy, mais en tout cas, c'était les deux sujets se vont bien ensemble. On a parlé tout à l'heure des craintes et de prendre courage face à nos craintes. On va voir aujourd'hui un passage sur nos inquiétudes. Je vous invite à lire à partir du verset 22. Non, on va pas le lire, sinon, parce que ça va prendre un peu beaucoup de temps. On va le découper en trois parties. Et si, parce que dans le premier texte, finalement, on nous montre comment faire de cet argent qu'on a trop, de ce superflu. Ici, bon, cette deuxième partie du texte, ça va être tout l'inverse. Jésus est avec la foule et là, il va prendre en privé ses disciples, il va leur montrer que faire quand c'est tout l'inverse. Quand, non pas vous avez trop de superflu et que vous ne savez pas quoi en faire, mais que faire quand c'est l'inverse et que vous n'avez même pas assez. Et il va prendre du temps pour leur dire de ne pas se préoccuper de ce qui est nécessaire même à la vie, à nos besoins cruciaux. Alors, ce qu'on va voir, c'est que on va nous dire de ne pas avoir crainte de ces choses qui sont cruciales, comme le manger, le boire, la nourriture, les vêtements. C'est bien beau à dire, mais que faire finalement lorsque les aléas de la vie arrivent? C'est bien beau de dire de ne pas s'inquiéter, mais de prendre courage, de se fortifier. Mais concrètement, que faire quand notre compte en banque frôle le négatif? Ou même en négatif, et qu'on a des agios. Que faire quand ça fait un certain temps que tu cherches un travail et que rien ne se passe? Que faire quand tu peines à joindre les deux bouts? Quand tu deviens malade et vieillissant, et que tu te demandes pourquoi ces choses-là m'arrivent à moi ou à ma famille? Pourquoi, Seigneur? Pourquoi? Jusqu'à quand? Comment ne pas s'inquiéter ces choses-là nous arrivent. C'est dur à répondre. Je pense qu'il y a pas mal de fois où la seule réponse qu'on aura quand une personne avec qui nous discutons vit ces choses, c'est simplement d'être là pour tendre notre épaule, tendre la joue et être là pour l'écouter. Mais ce que va dire Jésus, c'est simple, c'est ne crains pas. Fortifie-toi, hein, c'est ce qu'on avait tout à l'heure dans le verset dans Josué. Il va à 4 reprises dire cette chose, ne vous inquiétez pas. Qui, par ses inquiétudes, peut rallonger sa vie? Ne soyez pas inquiets. Ne crains pas. Dans ce court texte, Jésus va le répéter déjà 4 fois. Et c'est ce qui nous montre que c'est le point central de ce texte. Ne crains pas. Alors, comment faire pour ne pas craindre dans ces moments-là? On va voir 3 choses. Premièrement, verset 22 à 26, un rappel de qui est Dieu. Deuxièmement, c'est 27 à 30, qu'il va falloir avoir foi dans la providence, dans la souveraineté, dans la toute-puissance de Dieu. Dernièrement, avoir un regard qui ne soit pas porté sur nos soucis matériels, c'était la prière de ce matin, mais porté sur le royaume de Dieu. Je propose qu'on voit ça ensemble avec ce premier texte, versets 22 à 26. Je vais le lire. Luc 12, versets 22 à 26. Jésus dit ensuite à ses disciples, « C'est pourquoi je vous le dis, ne vous inquiétez pas de votre vie ou de ce que vous mangerez, ni pour votre corps ou de ce dont vous serez habillés. La vie est plus que la nourriture et le corps est plus que le vêtement. Observez les corbeaux, ils ne sèment pas, ne moissonnent pas. Ils n'ont ni cave ni grenier, et Dieu les nourrit. Vous valez beaucoup plus que ces oiseaux. Qui de vous peut, par ses inquiétudes, ajouter un instant à la durée de sa vie, si donc vous ne pouvez rien faire, même pour si peu? Pourquoi donc vous inquiétez-vous du reste ? On va voir dans ce premier passage que Jésus nous invite à nous rappeler qui est Dieu. Il va prendre une première image, celle de corbeau. Considérez les corbeaux, Dieu les nourrit. Alors pour nous, ça peut paraître un peu bizarre, cette précision, que ce soit des corbeaux, il aurait simplement pu dire des oiseaux particuliers. Mais pour les premiers lecteurs, pour les juifs de l'époque, en fait, le sens est tout autre. Il faut savoir que dans la loi de Moïse, à l'époque, les corbeaux étaient considérés comme impurs. C'est ce qu'on peut lire dans le Lévitique au chapitre 11, verset 15. Ces corbeaux-là, ils avaient interdiction d'en manger. Pas bien. Et pourtant, ces oiseaux-là impurs, qu'est-ce que nous dit ce texte? Dieu les nourrit. Dieu nourrit ces animaux impurs. Et ce que veut dire la suite de ce texte, que je vous ai mis en gras, combien ne valez-vous pas plus que les oiseaux? C'est ça qu'il faut comprendre. Si Dieu prend du temps à nourrir ces corbeaux, ces créatures impures, à combien plus forte raison il va pourvoir à nos besoins à nous? Nous qui sommes infiniment plus que ces oiseaux. Nous qui ont été créés à son image. Alors je rappelle, les oiseaux, eux, ils attendent pas sagement que la nourriture tombe dans leur bec, ils sont pas là dans leur nid à attendre. Non, c'est des animaux non feignants qui vont prendre du temps pour aller récupérer de la nourriture, chasser des vers et autres pour nourrir eux-mêmes et nourrir leurs petits-enfants quand ils en ont. Et c'est la même chose avec nous, on ne doit pas attendre sagement que Dieu vienne faire tout ce qu'il faut pour nous nourrir. On peut œuvrer en ayant confiance que Dieu pourvoit. Et c'est ça la première leçon de ce passage. C'est comprendre que Dieu pourvoit. Ce n'est pas rester là à rien faire, à attendre sagement. Mais c'est continuer d'œuvrer avec la confiance que Dieu va agir. J'ai trouvé une image sur le site de la Révolution qui est la suivante. Imaginez un chef de chantier qui décide de construire une maison de rêve pour son fils juste avant de partir à la retraite. Ça va être son dernier chef-d'œuvre. Il va la construire, des beaux murs, des beaux matériaux, un beau plan, une belle piscine, pourquoi pas. La maison de ses rêves. Donc lorsque la construction est finie, le fils va pouvoir enfin emménager. Donc ce qu'il va devoir faire, c'est qu'il va devoir, comme tout le monde, se rendre à Ikea et acheter ses meubles, acheter sa déco. Sauf qu'en fait, ce fils, il est comme moi, il n'est pas doué avec tout ça. Il n'est pas doué avec la décoration, il ne sait pas comment construire des choses, il ne sait pas construire une cuisine, il ne sait pas visser des choses à visser, etc. Il sait rien faire. Et lorsqu'il commence, juste à détruire le mur. Il va voir son père, il dit, père, j'ai besoin de ton aide, j'arrive pas à faire telle ou telle chose, j'arrive pas à construire ma cuisine, à monter ce meuble, à décorer ma maison comme je veux. Est-ce que vous pensez que le père, qui a passé les derniers mois de son temps de travail à construire sa maison, va voir son fils et lui dire, oh mon fils, je t'ai fait ta maison, débrouille-toi. Est-ce que vous pensez qu'il va faire ça? Il y a de grandes chances que non, que le père va se dire, bah, mon fils, je vais t'apprendre comment faire. Je vais t'aider à construire ta cuisine, à monter tes meubles et installer ta décoration comme tu veux. Si ce père a fait la chose incroyable de construire cette maison de rêve, ne va-t-il pas l'aider à faire ces petites choses manuelles? C'est la même chose avec Dieu. Si Dieu a fait la chose incroyable de nous donner la vie, de nous créer à son image, ne va-t-il pas à plus forte raison nous aider pour voir à nos besoins plus simples du quotidien? C'est là le sens des versets 24 et 25. Pourquoi s'inquiéter? À quoi donc? On ne pourra jamais rallonger notre vie. Qu'importe ce que les avancées scientifiques nous en disent. À quoi bon s'inquiéter? Alors oui, c'est difficile de ne pas s'inquiéter. C'est normal, je dirais. Si demain vous allez voir le médecin et qu'il vous annonce que vous avez un cancer en phase terminale, vous avez des raisons de vous inquiéter. Je m'inquiéterai également. Ce que Jésus nous cherche à nous dire ici, c'est plutôt, bah, lorsque tu commences à t'inquiéter, rappelle-toi qui est Dieu. Rappelle-toi qui est Dieu. Rappelle-toi que c'est un Dieu qui a tout créé, qui aime et qui prend soin de ses créatures, qui pourvoit à leurs besoins les plus modestes. Rappelle-toi cela. Rappelle-toi qui est Dieu. Deuxième partie, pour ne plus craindre, avoir foi en la providence de Dieu. La première image, c'était celle de corbeau. La deuxième image, elle nous parle de lys, dans certaines versions, ou de fleurs, dans d'autres. Des belles fleurs qui sont bien parées, mais qui pourtant, on sait comment les fleurs finissent. On achète un bouquet de fleurs et quelques jours plus tard, qu'est-ce qui se passe? Elles fanent. Une belle beauté, mais une beauté éphémère. Et ce que Jésus ici nous cherche à nous dire, c'est un peu dans le même sens que l'image avec les oiseaux. Vous voyez la beauté des fleurs, encore plus belle que Salomon lorsqu'il était au sommet de sa gloire. Si Dieu donne des habits à des fleurs, à des végétaux qui sont si éphémères, qui fanent si vite, à combien plus forte raison nous couvrira-t-il également? Un peu dans la même lignée que ce qui a été vu juste avant avec les corbeaux. Sauf qu'ici, il va rajouter quelque chose, ce que je vous ai mis en rouge. Gens de peu de foi. Gens de peu de foi. On voit ici la clé du problème, en fait, de ce passage. Le problème, c'est le même qu'avec les corbeaux. Le problème, c'est notre manque de foi. Dans les versets qui suivent, il va nous comparer à ces non-croyants qui ne connaissent pas Dieu, qui ne connaissent pas ce Dieu créateur, ce Dieu de la Bible, et qui donc s'inquiètent. Et qui donc, lorsqu'ils s'inquiètent, vont essayer par tous les moyens possibles à leur portée de trouver des solutions à leur anxiété. Ils vont passer par de la relaxation, une meilleure alimentation, du sport, de la musique, de la sexualité, voire pire parfois des addictions. Tous ces moyens pour pallier à leur anxiété. Jésus dit, mais vous, mes disciples, parfois vous agissez de la même manière. Gens de peu de foi. Ce que Jésus nous invite ici à faire, c'est pas à nous fier à tous ces remèdes de ce monde, mais à nous fier simplement dans la providence de ce Dieu Tout-Puissant. Il nous demande d'avoir foi en lui, d'avoir foi qu'il peut nous aider. Un peu comme avant, en fait, en tant que chrétien, on sait que Dieu est venu sur cette terre pour mourir à notre place, et ça, on le sait. C'est quelque chose qu'on vient chanter les dimanches matins, dont on a confiance qu'il est venu pour nous. Mais lorsqu'il s'agit de faire confiance que Dieu règne dans nos besoins les plus modestes, là, on a toujours plus de mal. On dit, bon, Dieu s'en fiche. Il va pas se tracasser avec mes petits moyens, il a d'autres choses à faire. Il y a tellement plus de besoins dans le monde. Il est là pour sauver ma vie, mais pour ce qui est de mon besoin quotidien, qu'importe. Et c'est pour ça que ce passage nous dit, nous avons besoin de plus de foi. Et il y a un exemple dans l'histoire qui m'a marqué. C'est l'histoire de Georges Müller. Alors pour ceux qui ont le livre de David, « À chaque jour suffit sa grâce », c'est un passage que vous pourrez lire à la page du 17 janvier. C'est un livre qui nous montre beaucoup d'hommes de Dieu qui ont fait confiance à Dieu dans l'adversité, malgré les inquiétudes. Et donc cette histoire de Georges Müller, c'est un Anglais en Grande-Bretagne qui avait pour habitude de récupérer des enfants orphelins de Londres. Il construisit plein d'orphelinats et il y avait plus de 10 000 enfants dont il s'occupait. Sauf qu'en fait, il n'avait aucun argent, aucun revenu. Il priait le matin même pour que quelque chose se passe, pour que Dieu pourvoie. Et qu'est-ce qui se passait? Un matin, un boulanger arrivait, il disant, ah, ce matin, j'ai fait trop de pain, je vous en donne. Un autre jour, le laitier qui passe en disant, les commandes ont été annulées, je vous passe ce lait. Un autre jour, un maraîcher qui arrive et qui leur donne des légumes. Et tout ça, des années et des années durant. Pendant des décennies, Georges Müller était un homme de prière, un homme de foi, qui n'avait rien, mais qui basait sa confiance sur la provision, sur la providence de Dieu. C'est quelque chose que vous pourrez lire dans un livre qui a été écrit, son histoire qui s'appelle « L'audace de la foi », si jamais. Il va dire une citation qui est la suivante. « L'inquiétude commence là où la foi s'arrête, là où s'arrête la foi, et la vraie foi commence là où s'arrête l'inquiétude. » Que cet exemple de Georges Müller puisse nous inspirer à nous aussi à avoir foi au sein même des inquiétudes, à avoir foi que Dieu pourvoit, même quand je ne semble rien avoir. Et c'est ça la leçon de cette deuxième partie, c'est que quand tu commences à t'inquiéter, aie foi, en la providence de Dieu. Rappelle-toi qu'il connaît tous tes besoins, ta peur du lendemain, ça c'est un cantique qu'on connaît bien, et qu'il est au contrôle de nos vies. Rappelle-toi qu'il connaît tes besoins, et foi en la providence de Dieu. Troisième chose, lorsqu'on craint, qu'on puisse avoir un regard porté sur le royaume de Dieu. Depuis tout à l'heure, on parle de Dieu qui prend soin de sa création, d'un Dieu qui pourvoit, qui gère, qui est au contrôle. Alors c'est encourageant, n'est-ce pas? Mais concrètement, comment est-ce qu'on peut en être sûr? Parce que ce que je vis au quotidien, c'est pas toujours ça que je vois. Je vois pas toujours, ou j'ai pas l'impression que Dieu pourvoit. Mais regardez comment Jésus va continuer ce texte. Il va nous dire au verset 32, « Votre Père a trouvé bon de vous donner le royaume. » Dieu nous a donné le royaume. Ça veut dire que nous pouvons avoir cette assurance que nous aurons cette éternité dans sa présence. Que si certes, les circonstances du présent sont compliquées, alors nous pouvons avoir cette espérance que nous aurons, contrairement à ce riche de l'histoire d'avant, une éternité dans sa présence. Mais comment cette assurance a-t-elle été rendue possible? On se rappelle, Dieu est juste, Dieu est saint. Et nous, qu'est-ce qu'on fait? On est comme ce riche, on vit indépendamment de Dieu. On vit en rébellion avec lui. Et donc, on ne mérite pas ce royaume. On ne mérite pas qu'il vienne à nos besoins. On ne mérite pas sa faveur. Et bien, c'est justement ça le message de l'évangile. C'est justement ça que Jésus veut nous faire comprendre. C'est là le but de sa venue. Jésus a trouvé bon de nous donner le royaume. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que sa colère a été rendue propice pour nous. Il a trouvé bon. C'est que notre rébellion a été rendue propice. Nous méritons sa colère, nous méritons qu'il nous abandonne à notre sort. Nous méritons comme ce riche qui nous traite d'insensés, qui nous dit « Cette nuit-là, ta vie te sera redemandée. » Mais Dieu, dans son amour infini, est venu rétablir cette relation brisée. Il est venu prendre sur lui cette colère et cette justice que nous méritions. Et si Dieu est avec nous, si nous avons la faveur de Dieu, c'est parce que Jésus a pris sur lui le poids de notre rébellion. À ce moment-là du texte, les disciples n'ont pas compris, et c'est quelque chose qui va se faire. C'est un peu plus tard, si vous lisez, la suite de cet évangile. Jésus est venu pour que des gens qui, comme ce riche, comme ces personnes-là, des gens qui vivent pour eux-mêmes, des gens qui s'inquiètent tout le temps et qui n'ont pas foi que Dieu peut les aider. C'est pour des personnes comme ça que Jésus est venu. Pour des personnes qui, malgré tout, placent leur confiance et leur foi en lui. Son sacrifice rendu propice à notre égard. Triste a déjà tout payé. Et c'est pourquoi le royaume est en notre possession. Et je veux te poser cette question avant qu'on puisse passer à la suite. Est-ce que tu es convaincu de cela? On l'a chanté tout à l'heure, Christ est roi. Oui, il est roi. Mais est-ce qu'il est ton roi? Est-ce qu'il est la personne dans laquelle tu te tournes lorsque tu as des problèmes? Est-ce qu'il est la personne vers laquelle tu te tournes lorsque tu as beaucoup? Est-ce que tu es convaincu qu'en Jésus, Dieu t'est propice et qu'il peut agir en ta faveur? Troisième raison pour laquelle on n'a pas à craindre, parce que nous avons une éternité qui nous est scellée en Christ. Alors avant de finir, parce que je sais qu'avec le groupe de jeunes, on va avoir ces questions qui vont me tomber dessus mercredi, donc je vais en parler. Verset 33, « Vendez tout ce que vous possédez, donnez-les en aumône. » Ces verbes ont l'air d'être des impératifs. Tout à l'heure, on nous parlait d'ordre dans Josué. Ce n'est pas des conseils, hein, s'il vous plaît, donnez un peu. Non, c'est « Vendez tout ce que vous voulez. » Faites des bourses, etc. et donnez-le en aumône. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que c'est des choses qu'il faut prendre au pied de la lettre? Est-ce que Jésus est en train de nous dire, à la fin de ce culte, donnez tout ce que vous avez, donnez-le aux pauvres, et voilà. Ce qu'on voit dans la suite de la Bible, notamment dans le livre des Actes, c'est qu'il y a eu un moment où beaucoup de personnes ont vendu tous leurs biens pour aider des missionnaires, pour répondre à des besoins de l'église primitive de l'époque. Et aux besoins de ceux qui n'avaient rien. On a un épisode connu de Ananias et Saphira dans Acte 5, où on voit que ces personnes-là, ils n'ont pas envie de tout donner, et donc ils vont mentir sur ce qu'ils vont donner. Et Pierre, il va leur dire au début du chapitre 5, mais vous n'étiez même pas obligé de tout donner, vous n'avez pas à mentir en fait. Et c'est parce qu'à cause de leur mensonge qu'il va se passer des mauvaises choses pour eux. Mais bref, ils n'étaient pas obligés de tout donner. En fait, il ne faut pas prendre ces versets à la lettre, mais plutôt comme des exhortations, des encouragements. Soyez prêts à agir ainsi, soyez prêts à tout donner, à vendre ce que vous avez à donner aux nomos, si c'est dans l'intérêt du royaume. C'est ça qui nous invite à faire. Soyez prêts à donner tous vos biens, à renoncer à vous-même, à vos possessions, pour faire avancer le royaume de Dieu. Et c'est ce détachement justement des choses matérielles qui nous montre où se trouve notre trésor, où se trouve notre cœur. Non pas dans les choses terrestres, mais dans le royaume de Dieu. Parce que c'est comme ça que se termine ce passage, un verset très connu, car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Quel est ton trésor? Est-ce que ce sont tes biens terrestres? Ou est-ce que c'est l'espérance du royaume? L'espérance d'une éternité dans la présence de Dieu, rendue possible par le sacrifice de son Fils à la croix. Là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Comment donc gérer nos inquiétudes? En se rappelant qui est Dieu, et en se confiant en lui avec foi, portant nos regards sur le royaume, sur l'éternité. Ça fait maintenant 3 semaines que l'on suit les enseignements de Jésus, des enseignements qui sont là pour nous, ses disciples, nous montrer comment vivre une vie centrée sur notre Maître, comment vivre en tant que disciples qui suivent le Maître, comment renoncer à soi. Regardez ce tableau. Est-ce simple d'appliquer toutes ces choses? Est-ce simple de vivre toutes ces choses-là? Absolument pas. Ni Pierre, ni Philippe, ni moi-même n'y arrivons parfaitement. Et c'est pas parce qu'on est là devant vous qu'on y arrive mieux que vous, qu'on est des exemples à ce niveau-là. Nous aussi, on est en pleine sanctification, on a besoin de travailler sur certains, voire tous, de ces aspects. On est comme vous les premiers destinataires de ce texte. Je reprends la phrase de Pierre la dernière fois il avait conclu comme ça, il disait « Ces choses sont infaisables par nous-mêmes. Qui est suffisant pour ces choses ?» nous disait Paul. « Mais ces choses nous viennent de Dieu. » Parce que ce qui est impossible à nous, c'est possible à Dieu. Et donc sachez que pour réussir toutes ces choses, nous ne sommes pas seuls. Nous avons un Dieu qui est là pour nous aider, nous faire travailler, nous sanctifier, nous rendre semblables à lui. Si on le lui laisse la place. pour ce matin, au moins. Rappelons-nous de ces deux choses. Premièrement, comment gérer le matérialisme? C'est l'image de ce jeune homme riche. Comment gérer le matérialisme en étant riche pour Dieu? C'est-à-dire en utilisant nos richesses dans la dépendance et la soumission à Dieu, plutôt que pour nous-mêmes, en renonçant à soi-même. Comment gérer nos inquiétudes? En se rappelant de qui est Dieu, et en se confiant en lui avec foi, portant nos regards sur l'éternité. On a pas mal de versets qu'on aurait pu citer à la suite. On a eu Josué 1.9 tout à l'heure, on a eu Isaïe 41.10, qui nous fortifie de sa main droite triomphante. J'en ai un autre qui m'a pas mal marqué pour ce texte. Et qu'on puisse un peu finir comme ce psalmiste, écrit haut et fort. Quand je suis dans la crainte, en toi, je me confie. Quand je suis dans la crainte, en toi, je me confie. On ne veut pas dire ici qu'il n'y aura jamais de crainte, que tout va bien se passer. C'est pas le cas. Il dit que lorsque ça arrive, lorsque la crainte arrive, je dois redoubler d'efforts et me confier davantage en l'Éternel. Puissions-nous repartir avec l'espérance des paroles de ce cantique « Abrite-moi » qui dit « Même si les océans se déchaînent, je les traverserai avec toi. Père, tu domines les tempêtes. Je suis tranquille, car tu es là. Je suis tranquille, car tu es là. Ne craignons plus, Dieu est avec nous. » Amen.